François Chevalier, bonjour.
Bonjour
Vous
Didier.
êtes le stratégiste de la banque Leonardo. On va parler avec vous, bien entendu, de marché, de perspectives sur ces marchés. Avant de parler de perspectives, le mois d'août, bien sûr, vous l'avez vécu comme beaucoup d'acteurs de ces marchés. Qu'est-ce que vous retenez, vous, de cette crise, de ce krach du mois d'août sur les marchés?
D'abord, les raisons. Il y en a deux. C'est la dégradation de la note américaine le 6 août. Et puis il y a une deuxième raison aussi, c'est le 18, c'est l'indice de Philadelphie qui est tombé tellement bas que c'est vrai, à ces niveaux-là, on peut anticiper une récession aux États-Unis. Donc on a retrouvé la double crainte, une crainte par rapport au risque public et une crainte par rapport au risque de récession. On avait les deux risques, le risque public et le risque privé. Il n'est pas sûr que l'indice de Philadelphie ait raison parce qu'il est isolé et parce que la réalité finalement est beaucoup moins noire que ce qui s'est passé sur les marchés.
Alors, on a quand même des inquiétudes à nouveau sur les dettes souveraines en Europe également, on voit régulièrement hein, qu'il y a des doutes sur la Grèce, hein, le lendemain c'est l'Italie, ensuite les investisseurs regardent l'Espagne. Quelque part, on a quand même ce climat qui s'est installé de défiance de certains investisseurs, en tout cas sur les États, sur la dette, les dettes souveraines.
Oui, d'autant, alors en Europe, ça se double en fin d'interrogation sur la légitimité de l'euro, parce que l'Europe est divisée entre le nord et le sud, entre des pays vertueux comme l'Allemagne, comme la Belgique, comme les Pays-Bas, et les pays du sud qui le sont beaucoup moins. Et puis il y a un deuxième aspect, c'est dans les pays du sud, là où on a appliqué des politiques budgétaires finalement drastiques, des plans d'austérité comme en Grèce, voire même en Espagne aussi. Eh bien, on s'aperçoit qu'il y a un effet pervers sur les recettes. Les dépenses ont fortement baissé et les recettes sont en train de baisser elles aussi. Donc, c'est assez compliqué en fait de rétablir un équilibre budgétaire et peut-être qu'il vaut mieux pratiquer à court terme par une hausse des recettes, une remontée des impôts, que par une baisse trop forte des dépenses. Et bon, ça c'est sur l'aspect budgétaire européen qui se double donc de craintes sur l'euro. Constamment alimenté par un débat au sein même de la zone euro entre les Allemands ou les Européens du Nord et qui contestent en fait même la mutualisation des dettes. Hein. Et puis aux États-Unis aussi, hein, c'est un problème. Parce que le problème des États-Unis, c'est non seulement le niveau de leur dette, avec le plafond qui vient d'être relevé, mais c'est aussi le fait que les États-Unis découvrent la croissance molle et un taux de chômage élevé, ce qui implique une politique sociale de soutien et donc un niveau de dépenses également élevé.
Alors, le constat aussi de beaucoup d'investisseurs après des mois d'espoir et qui ont pu se refléter à travers des progressions d'indices en début d'année, le QE1, les quantitative easing, donc les politiques de relance effectivement effectuées par la Réserve fédérale américaine, le QE1, le QE2, n'ont pas porté les effets attendus et finalement on a effectivement cette croissance qui risque d'être faible aux États-Unis. Est-ce que du coup attendre un QE3 miraculeux, c'est pas faire la même erreur que certains investisseurs ont pu faire au début?
Si, on peut être déjà très réservé sur l'efficacité de l'assouplissement quantitatif, parce qu'en réalité, le seul impact, lorsqu'on regarde les taux longs, l'impact attendu, c'était une baisse des taux longs américains et qui se propage au reste de l'économie, en particulier au rendement immobilier ou au rendement action. En fait, on a assisté, alors c'est vrai que les taux longs, d'abord, n'ont pas été du tout sensibles à la politique monétaire, mais beaucoup plus sensibles à l'indice ISM, c'est-à-dire à l'indice d'activité. On a vu les taux longs remonter fortement aux États-Unis à l'automne dernier parce que l'indice ISM bondissait. Et puis, depuis mars-avril, alors que l'indice ISM est en train de fléchir, on a vu les taux longs fléchir avec. Donc, il n'y a pas eu d'efficacité sur le niveau des taux longs. Et puis, la deuxième chose, c'est qu'à supposer qu'il y ait eu une baisse, cette baisse ne s'est pas propagée au rendement des actifs, ce qu'on espérait. En fait, on s'attendait à un effet richesse. Et finalement, le seul impact de l'assouplissement quantitatif a été la baisse du dollar à un moment où la BCE était en train de resserrer sa politique. Donc, on peut être très réservé sur l'assouplissement quantitatif, l'utilité et l'efficacité de l'assouplissement quantitatif, d'autant que finalement, si c'est une action sur le niveau des taux longs, ça dispense en fait le gouvernement américain de mettre de l'ordre dans ses finances publiques. Donc là encore, c'est pas très souhaitable. Mais en résumé, la politique monétaire est tout de même relativement inefficace. À partir du moment où les gens ne veulent pas s'endetter et les ménages américains se désendettent, la politique monétaire n'a plus beaucoup d'efficacité.
L'un des peut-être des phénomènes les plus étonnants, c'est de voir que sur l'immobilier, qui a été pour une bonne part à l'origine de cette crise, l'immobilier ne se redresse pas encore. On a encore des chiffres régulièrement de baisse des prix, de baisse des ventes, de baisse des mises en chantier. Quelque part, cette question immobilière américaine, elle reste toujours là, posée. Elle reste posée. On n'a pas encore, on ne va pas encore dans le bon sens.
Oui, parce que pour que l'immobilier reparte, l'immobilier, c'est des achats qui sont par endettement. Il faudrait que les ménages se réendettent. Or, il y a tout de même un signe positif qui est la remontée du crédit de la consommation, mais c'est le seul. Pour le moment, la priorité aux États-Unis reste au désendettement. Alors, le désendettement est déjà très engagé, hein. On a un service de la dette en pourcentage du revenu disponible qui est revenu sur des niveaux inférieurs à la moyenne, c'est-à-dire aux alentours de 11,5, la moyenne étant à 12,3, mais on était monté à plus de 14. Donc, il y a un désendettement. En fait, alors l'immobilier ne rechute pas, il est simplement jamais reparti. Il n'est jamais reparti parce qu'il n'y a pas de candidat au prêt. Et puis les banques ne sont pas non plus incitées à prêter aux ménages américains. Mais si vous regardez les fondamentaux de l'économie américaine, ça c'est pour revenir sur le risque de récession qui a effrayé les marchés cet été après l'indice de Philadelphie. Lorsque vous regardez, ils ne sont pas si mauvais parce qu'on vient d'avoir les résultats avec la deuxième version du deuxième trimestre, on a eu les profits américains. Le taux de profit aux États-Unis est à un niveau des sociétés non financières extrêmement élevé, ce qui veut dire qu'on est à l'abri d'une crise d'offre. Et lorsqu'on regarde le service de la dette, justement, des ménages américains, ils se sont désendettés et on est à l'abri, on en a la confirmation par le crédit à la consommation, d'une crise de demande. Donc les fondamentaux ne sont pas mauvais. Ce qui est inquiétant dans le cas des États-Unis, c'est le fait que les ménages et l'endettement des ménages ne pourra plus contribuer, comme c'était le cas dans le passé, à la vigueur de la consommation des Américains. Et puis le deuxième point, c'est que effectivement, les États-Unis doivent mettre de l'ordre dans leurs finances publiques.
On a l'impression, hein, au global, quand on regarde les États-Unis, quand on regarde la zone euro, que les États sont face à ce dilemme, effectivement, que vous avez évoqué. Il faut faire des plans d'économie, des plans de rigueur, même si le mot est parfois tabou dans certains pays. Et puis, si on fait trop de rigueur, trop de plans de rigueur, on sait très bien qu'en face, effectivement, les consommateurs ne seront pas au rendez-vous. Donc, on va peut-être aggraver la crise. On a l'impression que c'est une équation qu'on va avoir du mal à résoudre.
Oui, elle se résout dans le temps. Elle se résout avec du temps. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas de solution facile. À partir du moment où la croissance n'est pas forte, parce que soit les ménages sont trop endettés, ou, comme c'est le cas parfois en Europe, le niveau des prix immobiliers est beaucoup trop élevé et il y a un phénomène de rente qui joue contre la croissance. Donc la croissance n'est pas au rendez-vous, l'inflation ne sera pas au rendez-vous. Donc la solution facile de désendettement de l'État et de réduction des dettes par une augmentation de la croissance nominale n'est pas offerte. Donc oui, c'est un exercice difficile et qu'on trouvera aussi bien aux États-Unis qu'en Europe. Et c'est tellement vrai que c'est à peu près la même situation aux États-Unis et en Europe que si on regarde l'évolution, l'euro-dollar est stable et en fait le franc suisse s'apprécie autant par rapport à l'euro que par rapport au dollar. Ce qui veut dire que les deux monnaies sont vraiment aussi faibles l'une que l'autre.
En conclusion, qu'est-ce que ça veut dire pour l'investisseur? Parce qu'on voit certains investisseurs aller effectivement acheter de l'or. On parlait du franc suisse, le Bund allemand, pour ceux qui se protègent. Mais est-ce qu'on peut être, enfin, sur une allocation d'actifs aujourd'hui, est-ce on doit être en dehors du marché action? Comment vous voyez les choses? Parce il y a beaucoup de risques quand même qui sont là où on se dit le risque va revenir dans 3 mois ou dans 1 ou 2 mois.
Oui, en fait, le risque n'est jamais parti. Lorsqu'on voit le message qu'on avait début août, alors que finalement la situation n'était pas si mauvaise et qu'on venait de conclure, les Américains venaient de conclure un accord le 31 juillet, les Européens avaient conclu aussi un accord le 21 juillet, donc la situation n'était pas si mauvaise. En revanche, ce qui était angoissant, c'était de voir l'once d'or à plus de 1800 et de voir le franc suisse ou l'euro passer en dessous de 1,10. Donc il faut regarder ces valeurs refuges. C'est vrai que tant que les valeurs refuges sont à ce niveau-là, et c'est probablement en relation avec le risque de faillite d'un État, le niveau des dettes, le niveau des déficits, tant qu'on a un tel niveau de valeurs refuges, il faut avoir un comportement extrêmement prudent, ne pas être trop exposé sur les actions. Et il faut se méfier aussi des valeurs refuges, parce que le propre d'une valeur refuge, c'est lorsque la situation se retourne, les gens quittent la valeur refuge. Donc oui, non, c'est pas une situation facile. Généralement, les emprunts d'État qui servent de refuge, justement, il y a un problème de risque de faillite d'État. Donc c'est pas évident d'être investi sur un support en ce moment, c'est pas évident, en dehors de, évidemment, des placements liquides.
Merci d'avoir fait le point avec nous, François Chevalier, donc sur cette situation des marchés. Je rappelle que vous êtes donc stratégiste à la banque Leonardo.
Merci.